follement.
Voilà.
Bienvenue à vous, aux fidèles auditeurs de Pas d'affolement, nous voilà pour cette 35e émission, en compagnie de Béatrice, Christelle, Sylviane, Brigitte, Valérie, Jean-Louis, Ossine, moi-même Philippe, Francis à technique, Guillaume. Et pour cette 35e émission, nous avons un invité, Cyril Carini. Alors, c'est le vainqueur de l'émission du meilleur pâtissier édition 2015, diffusée sur M6.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Cyril.
Bonjour.
Portez un bon nom de pâtissier et alors présentez-vous.
Alors moi je suis donc Cyril Carini, j'ai gagné l'émission Le Meilleur Pâtissier en 2015, la saison 4 et depuis j'ai une petite société qui donne des cours de pâtisserie sur Bordeaux et sa région et puis voilà, donc depuis 3 ans maintenant je suis professionnel et je m'éclate à trouver des nouvelles recettes et des nouvelles saveurs et surtout partager ma passion pour la pâtisserie.
Oui, parce que c'est une passion, pas un métier, c'est une passion, vous avez un autre métier.
Exactement, je suis policier municipal à Pessac, donc c'est à 80% et c'est une passion qui est dévorante, parce qu'il prend tout mon temps, tous mes week-ends, toutes mes soirées, mais voilà, c'est avec plaisir que je fais les deux.
Alors j'ai une question là, qui englobe tout ça, c'est comment alors on arrive à concilier à la fois son métier de policier, sa passion prenante de pâtissier et sa vie familiale?
C'est pas facile, hein. Il faut réussir à juger, à doser tout ça. J'ai 2 enfants, donc déjà la police, c'est un métier prenant, surtout maintenant.
Oui.
La pâtisserie, c'est un travail quotidien. Hein. Et la famille, j'ai 2 petits garçons de 8 et 10 qui demandent beaucoup leur papa. Ils sont passionnés de foot, donc on est souvent en sortie et il faut justement trouver le juste milieu pour pas qu'il y ait quelque chose qui prenne dessus par rapport à l'autre.
Il faut s'organiser, quoi.
Il faut s'organiser, il faut être très organisé. Déjà dans la pâtisserie, c'est un métier où les pesées, la rigueur est de mise, mais dans la vie de famille, c'est exactement pareil.
Pouvez-vous nous dire quels fruits il faut en pâtisserie ? Des fruits cuits et des fruits non cuits.
Qu'est-ce qu'il faut faire cuire, c'est ça ?
Oui, pour faire une tarte aux fruits.
Ah, pour faire une tarte
aux
fruits ?
Qu'est-ce qu'il faut, oui.
Déjà, tous les fruits ne se font pas cuire pour une tarte. Par exemple, moi, j'adore la tarte à l'ananas. Les pêches, vous pouvez les faire cuire, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, quand on commence à faire cuire tout ce qui est fraises et tout ça, c'est beaucoup moins esthétique, c'est beaucoup moins sympa. Donc, si vous voulez faire cuire des fruits, prenez plutôt l'ananas, la pêche, les choses comme ça, qui sont des fruits qui... Les abricots, ça se marie très très bien quand vous faites des tartes cuites. Tout le reste, vous faites en tarte en fruits crus. Hein.
Quelle est votre spécialité ?
Alors moi, je suis fan de tout ce qui est travail du chocolat. Je fais beaucoup de Paris-Brest. Mais surtout, ma vraie spécialité dans la pâtisserie, c'est les entremets.
Ah,
ça me... J'adore le côté rigoureux, mettre des inserts, associer des crèmes, faire des biscuits de différentes structures. Et surtout, faire des glaçages, faire quelque chose d'esthétique.
Alors, qui fournit les ingrédients ? Vous manquez de rien ?
Au meilleur pâtissier ?
Oui.
Au meilleur pâtissier, non, on a la chance, on a une régie, on a une personne qui s'occupe que de... qui part tous les matins chercher les tout derniers fruits. On a l'avantage, on a beaucoup de sponsors, donc on a tous les moules qu'il nous faut, tous les moules qui existent, tout le matériel dernier cri. Et grâce à ça, on manque de rien, on est très très chouchouté. Donc voilà, on a la chance en tant qu'amateur d'avoir vraiment du matériel professionnel à notre disposition et ça, c'est génial.
Avez-vous eu le matériel nécessaire à vos créations ?
Oui, alors j'ai envie de dire oui. On a de toute façon, quoi qu'il arrive, beaucoup plus de matériel qu'on pourrait avoir à la maison. Donc pour nous, c'est un petit peu le paradis. On arrive là-bas, il y a de tout. Voilà, il faut quand même faire sur le meilleur pâtissier des choses qu'on sait faire. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans des choses improbables. Parce qu'autrement, après, en termes de temps, c'est trop compliqué et on est hors délai. Donc il faut quand même rester sur des classiques qu'on connaît et pas se lancer sur des choses trop extraverties. Hein.
Alors les ingrédients restants, est-ce qu'il y a du gaspillage?
Alors, c'est une très bonne question. Ouais. Il y a zéro gaspillage.
Ah,
il y a
ça
plus
c'est
de
bien.
Zéro, zéro, zéro. Il y a plus de 100 personnes qui travaillent sur le meilleur pâtissier. Donc tout ce qui est créé, les gâteaux, ils sont mangés avec la régie, les ingénieurs du son, tout le personnel qui travaille sur le meilleur pâtissier, pour les candidats aussi. Et tous les fruits qui ne sont pas mangés, ils sont offerts soit des oeufs, soit des œuvres caritatives. Rien n'est jeté. Il n'y a absolument rien de jeté.
Très bien.
Quand vous concevez un gâteau, vous réfléchissez à la pâte feuilletée, d'après ce que j'ai compris, à la crème. Quel est votre gâteau préféré?
Alors, mon gâteau préféré, sans aucun souci, c'est le Paris-Brest.
Paris-Brest.
Ouais.
Mais c'est dans la complexité de...
Ouais, dans la complexité, parce que c'est pas si facile. Il faut faire la pâte à choux, voilà, une pâte à choux qui se tienne, qui soit un petit peu croustillante, bien colorée. Il y a la gourmandise. D'accord, et la crème pâtissière aromatisée comme ça là, avec un praliné maison bien croustillant, et souvent maintenant on met un insert à l'intérieur de praliné pur, et ça associe la légèreté, la gourmandise. Donc ça, c'est un dessert vraiment que je trouve technique, et beaucoup de pâtissiers arrivent maintenant à le réaliser bien, mais c'est vrai qu'à une certaine époque c'était compliqué d'avoir de bons Paris-Brest.
C'est aussi un croquant gourmand.
Un croquant gourmand, c'est exactement ça, de Cyril Lignac, ouais.
C'était aussi une course de vélo, Paris-Brest, pour les éliminer.
Exactement. Les et justement, alors ça leur donnait des forces, les pauvres, parce qu'ils devaient en baver.
Y a-t-il des séquences qui sont reprises dans l'émission?
Des séquences reprises dans la pâtisserie, non.
Parce l'émission
que... Ouais, ouais. Alors une fois que ça a commencé, l'émission, une fois que le concours a commencé... Quand on pâtisse, là, il n'y a rien de repris. Après, c'est vrai que quand on fait des rentrées sous la tente, quand on fait des scènes de vie, qu'on appelle, là, c'est repris plusieurs fois. Mmh. Mais le concours, le vrai chronomètre, il n'y a rien de repris. Hein.
Merci.
De rien.
Y a-t-il beaucoup de personnes qui travaillent sur le tournage?
Alors, entre 100 et 120 personnes. Déjà, chaque candidat a une journaliste et un ou deux caméramans. Chaque candidat. Donc déjà, ça, c'est juste pour ceux qui sont sur le plateau. Après, il y a les ingénieurs du son. Il y a beaucoup, beaucoup de personnel autour, c'est-à-dire les cuisines, l'intendance. Donc ça fait beaucoup de monde. En général, il y a une centaine de personnes.
Alors dans l'émission, il y a un lieu qui décrit l'introduction à les mots verdure. Est-ce que ça correspond à la réalité?
Ah, exactement. Et encore, on ne voit pas grand-chose. Le château de Grousset, c'est vers Fontainebleau. C'est un château qui est magnifique, qui est bien entretenu. Il y a beaucoup de végétation, il y a des animaux en liberté. C'est un endroit vraiment paradisiaque. Et voir ce chapiteau du meilleur pâtissier au milieu de la campagne, c'est tout simplement merveilleux, c'est un rêve.
Êtes-vous aussi soumis sous pression que dans votre métier de gendarme?
C'est exactement pareil, c'est une très bonne question, c'est vraiment quelque chose qui ressemble. Au quotidien, déjà nous on a beaucoup de pression en termes de la police, et dans la pâtisserie c'est exactement pareil. Le concours, c'est vrai qu'à la télé ça fait tout beau tout rose, mais ça reste un concours, donc on a tous envie d'aller le plus loin possible. Et moi qui fais beaucoup de sport, ça m'a beaucoup servi, l'endurance, la rigueur, et la pâtisserie et la police ça se ressemble un petit peu, à part que dans la police il y a moins de créativité.
Alors, je crois que vous êtes écrivain aussi.
Ah, j'ai...
Parce que votre livre, est-ce qu'il s'est bien vendu?
Alors pour l'instant, j'en ai vendu 27 000.
Ah, c'est pas mal, oui.
Donc c'est pas mal du tout, je suis très content. Les locaux et en France, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de ventes. Il y a eu des régions, évidemment, comme Bordeaux, le Lot-et-Garonne, ma ville d'origine, qui se sont bien démarquées, mais il s'est très bien vendu, ouais.
Y avait-il des conseils particuliers que vous avez...
Non, alors pour le livre, ils m'ont laissé carte blanche totale. Pour le livre, ça a été vraiment, j'ai mis tout ce que j'ai voulu à l'intérieur. Il y a pas, ils m'ont pas dit, mets telle recette, mets tel parfum. Non, il y a eu, c'est moi vraiment qui ai créé toutes les recettes. Mmh. C'est vraiment, ils ont été super sympas.
Dégustez-vous les gâteaux de vos concurrents?
Sur le meilleur pâtissier, il faut savoir qu'on déguste tous les gâteaux des concurrents pour voir un petit peu les associations de saveurs, etc. Et surtout, dans le meilleur pâtissier, moi j'ai pris que 3 kilos, mais il y en a qui ont pris jusqu'à 7 kilos. Tellement qu'on mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pâtisseries.
Votre livre, s'est-il vendu ailleurs qu'en France?
En Belgique, Belgique et Suisse.
Merci.
De rien.
Merci Cyril.
Avec grand plaisir.
Et pour se remettre de nos émotions culinaires, On va déguster une pause musicale avec Vanessa Paradis. Dis-lui que je l'aime.
Yeah, merci.
Merci. Parlez-moi de ce que vous faites.
Alors, lorsque je viens dans les ateliers, donc que ce soit à Cadillac ou à Lormont, en général, je parle des œuvres d'art du musée. Et ensuite, on fait un atelier à partir des sujets qu'on a choisis au début. Donc, ce sont des ateliers qui parlent de peinture, de sculpture. En général, je parle des chefs-d'œuvre qui sont au musée des Beaux-Arts à Bordeaux. Mais comme tout le monde ne peut pas les voir, ce qu'il y a de bien, c'est quand je viens, j'apporte des reproductions et on étudie les tableaux. On apprend un peu tout ce qui est raconté dans ces œuvres, donc les histoires, mais aussi comment le peintre a produit son tableau. Est-ce qu'il a utilisé beaucoup de couleurs, la composition. Et puis ensuite, chacun va pouvoir faire un atelier, c'est soit du dessin, soit de la terre. Et donc on travaille tous sur un thème qui est imposé à chaque séance Mais c'est toujours libre, puisque chacun peut interpréter le sujet à sa manière. Il y a des personnes qui vont préférer faire de la terre, d'autres qui vont préférer faire de la peinture à l'huile, de l'aquarelle. Donc c'est quand même assez libre, même si le sujet est imposé au départ. Mais ce partenariat, il nous permet aussi de faire découvrir des chefs-d'œuvre qui sont au musée, et puis de parler aussi des expositions temporaires, de tout ce qui se passe au musée, puisqu'au musée, il y a tous les 3 mois une nouvelle exposition. Donc ça permet aux patients de découvrir les belles choses que présente le musée.
Alors les patients, comment ils réagissent en travaillant ces œuvres ?
Souvent, ils sont très contents parce que parfois, certains pensent qu'ils ne vont pas y arriver, puis ils sont très contents de voir que finalement, ils arrivent à produire de très belles choses.
Il y a des thèmes et beaucoup d'animaux, j'ai vu.
Oui, alors c'était un peu le choix de cette année, mais il n'y a pas toujours que des animaux.
Ah, ça change.
Oui, tous les ans, on change. L'année dernière, on avait travaillé sur le thème de l'arbre et de la nature, du paysage. Cette année, c'était plus sur les courants artistiques. Voilà. Donc, et on a beaucoup parlé des symboles en peinture, à la fois dans les tableaux de nature morte, mais aussi dans les tableaux de paysages ou de portraits où il y a souvent des animaux, par exemple.
Voilà. Il y avait un peu de cubisme, et également de la poterie.
Voilà, alors on a fait du travail de modelage, et on a étudié les œuvres d'un peintre bordelais qui s'appelle André Lotte, qui est un peintre cubiste, et qui aimait beaucoup la géométrie. Donc on a fait une série de baigneuses inspirées de Lotte, mais on a travaillé aussi sur Picasso et sur Henri Matisse, donc tous les peintres des avant-gardes.
Et ces ateliers se font avec le centre, le centre de jour, parce que moi je suis du centre de jour, ils y travaillent en particulier.
Voilà, alors c'est avec Cadillac, mais je vais aussi à Lormont et à l'unité des manières difficiles, à l'UMD aussi.
C'est l'UMD aussi le fait.
Dans 3 endroits, voilà. À Lormont, où il y a donc le Villeneuve-d'Ornon et le CATTP, et puis aussi il y a donc Cadillac et l'UMD. Voilà, donc ça fait 4 lieux qui sont réunis dans des ateliers, donc il faut essayer de venir, parce que c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble.
Et donc, merci Isabelle de
merci
votre...
Merci beaucoup de m'avoir posé ces questions.
Merci de votre disponibilité.
Merci. Êtes-vous autodidacte?
Attends. Oui, ce reportage était au Café Rencontre de Cadillac sur l'art, et c'était Isabelle Béchat qui nous parlait de la Rencontre des Arts, que l'hôpital, le compte-rendu de ce que fait l'hôpital en partenariat avec la mairie sur l'art. Et justement, Cyril, de l'art, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'art ? Est-ce que vous avez un art particulier ?
Alors, l'art, j'ai pas trop le temps, malheureusement. C'est vrai que je me sers un petit peu de tout ce qui est Internet, quand je vois un petit peu défiler de l'art sur les réseaux sociaux, etc., Instagram et tout ça. Je pique un petit peu quelques idées d'associations de couleurs, qui me donnent des idées pour mes futurs desserts. Donc, l'art, ça me plaît beaucoup.
Et êtes-vous autodidacte ?
Ah oui ?
Allez-vous prendre des cours ?
Ah non, pas du tout, je suis autodidacte à 100%. Internet et les livres, j'ai appris sur Internet et sur les livres. J'ai pas pris de cours, j'ai rien pris. C'est vraiment à force, petit à petit, à force d'essayer. Tout ce qui est association de saveurs, goûts, etc. Autodidacte à 100%.
D'accord. Voulez-vous demander quelle est votre source de motivation ?
Alors ma source de motivation, c'est incontestablement ma famille. J'ai la chance d'avoir une femme et des petits fantastiques qui me soutiennent en permanence. Donc vraiment, c'est ma source d'inspiration et c'est grâce à eux si j'en suis là. C'est eux qui m'ont inscrit au meilleur pâtissier. Donc vraiment, je les remercie encore une fois.
Ah, parce que comment vous y êtes arrivé comment vous êtes intéressé à la pâtisserie ?
Alors moi, j'ai toujours cuisiné au début, mais par manque de matériel, je pâtissais très peu. Et il y a 5-6 ans, avec ma femme, tous les ans, on partait à Paris. 2 jours pour faire la tournée des grosses pâtisseries. Et je m'étais dit, pourquoi eux, ils y arrivent et pourquoi pas moi ? Donc, à ce moment-là, je m'y suis mis à chercher sur Internet, sur les livres. J'ai commencé à pâtisser et là, tout le monde me disait, mais c'est pas mauvais. Et pour le meilleur pâtissier, en l'occurrence, c'est ma femme qui m'a inscrite au premier casting.
C'est une histoire familiale, au départ.
Exactement, c'est une histoire familiale.
Mais quand même, est-ce que les grands chefs n'ont pas une source d'intéressant pour vous ?
Ah si, carrément. Les grands chefs, quand j'étais tout jeune, déjà adolescent, je m'intéressais déjà à la pâtisserie. Pour moi, les chefs, c'était des dieux vivants. Et quand j'étais au meilleur pâtissier, j'ai vu Monsieur Conticini, Pierre Hermé et tout ça. Et pour moi, j'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons. Et ça reste toujours pour moi des personnes fantastiques. Hein.
Alors, vous êtes venu comment à cette émission ? On ne sait pas trop.
Alors, le tout premier casting, c'est ma femme qui m'a inscrite. Jour, j'ai reçu un appel de M6 en disant « Vous êtes convoqué au deuxième casting ». Et comme je leur dis, c'est bizarre, je ne me suis jamais inscrit.
Comment vous avez réagi alors ?
J'étais très étonné. Surtout M6 qui appelle sur mon portable, ça fait quand même bizarre. On était presque 9000 au départ. Pour participer à l'émission, il y a 4 castings. Donc, vous voyez, ça ne se fait pas comme ça. Il faut aller 2 fois à Paris, c'est déjà beaucoup de préparation. Et être déjà dans les 9000 sélectionnés, déjà, c'est bien.
Oui,
c'est... Et terminer à Paris dans les 11 meilleurs, c'est le Graal.
Oui, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Donc, si vous avez réagi ainsi, c'est que votre femme vous a
inscrite. Exactement, c'est ma femme qui m'a inscrite et elle me disait, tu vois, j'étais sûre que tu allais être sélectionnée. Et puis au tout début, elle me dit, je suis sûre que tu vas passer une ou deux émissions sans problème.
Alors, vous avez été en contact avec votre famille qui vous a supporté.
Alors,
oui.
Sur l'émission, on n'est pas trop en contact avec la famille parce qu'on fait des horaires, des amplitudes horaires très larges. Et ce qui fait, quand on arrête, c'est une heure et demie du matin régulièrement. Et ce qui fait que ben, quand on appelle la famille à une heure, ben, tout le monde dort. Mais oui. Ma femme, c'est vrai qu'elle a toujours été là, elle a toujours décroché, elle a toujours été un soutien pour moi. Parce que je suis resté plus de 8 semaines là-bas. Et je peux vous dire que des fois, ben, on en a marre, hein, psychologiquement, physiquement, ah, oui. C'est très dur. Et entendre la famille, être soutenu comme ça, c'est vraiment...
équilibrant.
Ah ouais, c'est équilibrant, tout à fait.
Et combien de temps l'émission a-t-elle duré?
Alors moi, je suis resté 8 semaines, un petit peu plus de 8 semaines. Parce que moi, j'ai fait le meilleur pâtissier. Et après, j'ai enchaîné la super finale avec les autres gagnants du meilleur pâtissier. Donc, je suis resté une semaine de plus. Ça a duré 8 semaines et demie à peu près.
Faut-il avoir un côté artistique et maîtriser le dessin?
Ah, alors déjà, le côté artistique est dessiné, comme vous dites. Déjà, quand on fait le croquis au tout début de réaliser une recette, on fait un petit croquis sur une feuille. Et c'est vrai qu'avoir des notions de dessin 3D et tout ça, ça sert vraiment. Parce que ça donne une image du gâteau, ça donne une image finale du gâteau déjà. Il faut l'avoir dans la tête, il faut l'avoir, comme on dit, sur une petite feuille de papier. Et après, comme ça, une fois qu'on a nos gros traits, et bien après on réalise le dessert plus facilement, oui.
Alors, il y a une question qui me tarabusque. Parce qu'en cuisine, on voit majoritairement des hommes en tant que grand chef. Est-ce que c'est le cas aussi en pâtisserie?
En pâtisserie, il y a plus de grands chefs masculins, vous avez raison.
Ah, comme en cuisine, alors.
Comme en cuisine, exactement. Il n'y a rien qui change. C'est bizarre parce que les femmes sont très créatives également.
Oh, oui.
Mais voilà, la vie fait que ben, elles ont des enfants. En fait, ça leur coupe un peu leur carrière des fois. Mais maintenant, on commence à avoir de grands chefs féminines qui sont très doués.
Il n'y a pas de raison. Hein.
Ah ouais, non, mais bien, évidemment, ça c'est clair.
Alors une question, c'est une question un peu humoristique. Alors combien d'heures de sport pour éliminer une pâtisserie? C'est pour savoir.
Oula mon pauvre, il faut faire de temps de sport que de temps pour manger un dessert. Alors moi, je fais beaucoup de sport, heureusement. Parce que je peux vous dire, c'est je fais beaucoup de pâtisserie et heureusement que je fais beaucoup de sport.
Ah bon, c'est une question, une réponse qui ne convient pas trop, mais enfin bon. Et alors, justement, on va changer de toute autre chose. Nathalie va nous lire son texte, un beau texte que vous allez écouter, vous allez entendre. Le grand voilier.
Les grands voiliers. Même s'il faudra faire de gros efforts pour respecter l'océan et la mer, nous félicitons pour les valeurs d'entraide et de solidarité des marins. Ça y est, le pont Chamon Delmas a levé son tablier pour que les grands voiliers de notre patrimoine accèdent au port de la Lune. Ils quitteront en parade de Pavois le petit fanion qui enguirlande les mâts. L'Hermione se visite au grand mât de 47 mètres de haut, c'est-à-dire que ça évalue à 5 étages à l'immeuble. Les quatre marins qui forment donc l'équipe se tiennent debout sur chaque voile repliée. C'est impressionnant. Ils partagent l'idéal magnifique de liberté, de solidarité et d'entraide. Sylvergite, je me sens toute petite. Hamilton m'impressionne beaucoup. Tous les vieux de Raymond sont magiques et splendides.
À vous, Brigitte.
Présenter la transition, présentation. On enchaîne toujours avec Drezinko, alias Antoine, et l'interprétation des grandes productions personnelles dans Mon élément.
Un rap d'Antoine.
DR. Ok, tu connais 33. Assez pour te refaire le portrait, je pense à ceux emprisonnés. Pourtant douter chaque soirée, enfumé, pète sur pète. Les caisses à livrer, faut du billet, smiley. Je sais pas comment m'y faire pour les tasses. Dans la rue, des balles aux famas. Je veux les thunes du Qatar Palace. En bord de plage, faire fournisseur de cam. deux blanches colombiennes ou deux vertes hollandaises. Pour toi, tu me considères comme moi, un faux frère. Les autres et moi, c'est pas la même. Tiens, flic à l'hôtel, c'est pas ce que je cherche. Les clients veulent la moule à miel. Prends garde aux donneurs, cambrioleur, arracheur, vendeur dans le secteur. Les gros oeils d'un inspecteur, comme une pute, il fait suceur. La peur chez nous, la peuf, sort le neuf. Blush sans preuve, on t'enterre au cercueil. Après on se tape ta sœur au barbecue. De bonheur, de là à tout perdre pour une plainte. Sur ma mère, j'assume mon bien-être. J'ai la peine et la haine. Misère qu'à Gambert, j'oseille Rolex, les salaires des millionnaires. Gagner les trous et ces enculés qui parlent de forniquer au quartier mal luné, traficanté, traficote de troc. La top en bas des blocs, à vouloir des sommes. L'étoile verte, mon emblème, la recette Maghreb United. Ressentir l'étincelle, ceux du gouvernement veulent nous voir en dèche. Et bien sûr que je veux pas me laisser faire. Provoque jusqu'à recette ton cartel de Fennec. Les yeux haussés, je te vois mon frère. Tu fais ken au réveil, des gros chèques, des chiennes adresse, fais pas le mât contre canard. Sans problème, tu finis par terre, fallait pas contexte. C'est ce rêve de t'appeler ton frère. Ben il cherchera tout moyen pour te la mettre à l'envers. On te monte en l'air, pour pas faire la guerre, des paroles en buvette. Au réveil des quais, plan vaillant, tu voulais les diamants, le luxe au cou. T'as fini par lui avec plus de sous, ton sauce, toi déçu. T'assumes plus en garde à vue, fallait pas donner son cul. Force à ceux en cellule, c'est pas dans nos codes. On cambriole, on ajole, personne à part la daronne. Que j'estime pas ces suspites qui font les pitres assis à Rova de la résine. Vos coups sont en yébi qui nuit s'enfuit à la tessie. Des vermines qu'on élimine dans leur cesse factif. Nous c'est le milieu qu'on vise par une zone à risque, une zone à périr. La limite, la cogite sous spliff. J'ai fait les 400 coups du délit de minuit avec le recul. Je me dis 2008, reprends trop vite. Esquive la PAC et la 3-8. Fonce carroche, défoncé sous cuite. On assure la course poursuite sur le périph. Ils ont pété une durite, pas un smic. Je me vois faire la diff. Tout pour la mif. Dr, 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 DRI33.
Et maintenant, nous retrouvons Brigitte avec un texte sur la mode. Brigitte ?
Oui, je voulais vous présenter la mode dès 1960 à maintenant. Et nous avons, en 60, nous avions des belles robes à plis chalet, des jupes gonflantes, cela me plaisait. Aux années 70, des jupes et des robes courtes, et plus tard, des pantalons à pattes d'éléphant. C'est les années 2000, les habits sont pas super, les pantalons sont jeans, sont moulants, et aussi le simili-cuir est apparu. Les années 60 sont plus belles dans le textile et fabrication des vêtements que maintenant. Je pense que dans le futur, nous pourrons faire des vêtements plastiques, simili-cuir. Cela n'aura pas besoin de machines à laver et on donnera qu'un coup d'éponge. Ce sera plus pratique et plus économique, fini le repassage. Jupe parapluie en matière plastique, en simili-cuir, souple, c'est le mode du futur. Les jupes évasées, la robe divers modèles seront dans le style plastique léger et cuir léger.
Cyril, que pensez-vous de ce texte et de cette mode ?
Bah écoute, moi ça me va. S'il n'y a plus à faire de machine, s'il n'y a plus à repasser, moi je signe de suite. Hein.
Vous êtes d'accord, Brigitte ?
Oui.
Maintenant, Oussine, avez-vous des questions à poser à l'invité ?
Avez-vous fait après l'émission, vous avez pas choisi le travail dans la pâtisserie avec vos fonctions?
Alors non, j'ai pas changé de fonction. Voilà, j'ai voulu garder ce métier de policier pour la proximité avec les gens, parce que j'aime beaucoup mon métier. Donc je tenais vraiment à continuer ces deux emplois. Et ben, maintenant j'ai trouvé un équilibre. Donc non, je suis pas prêt de changer, je suis pas prêt d'ouvrir une boutique, pas de suite. Pour l'instant, c'est vraiment le partage et l'échange avec mes élèves quand je leur apprends à faire de beaux gâteaux. Donc j'en suis très satisfait.
Moi, je peux vous poser une question?
Bien sûr.
Est-ce que vous êtes le genre de policier qu'on voit dans les films?
Oh non, moi je suis un policier gentil. Si, voilà, je suis quand même quelqu'un de... Pas comme dans les films du tout, je suis plus dans le...
Même
dans
pas
le...
une légère fiction?
Non, même pas une légère fiction. Maintenant, c'est compliqué d'être policier déjà. Donc non, je suis quelqu'un de réglo et droit dans mes bottes. Donc non, c'est pas... je suis pas un cow-boy.
Merci.
Brigitte, avec votre fonction de policier... Comment trouvez-vous le temps de pratiquer la pâtisserie?
Eh ben t'es, ma pauvre, j'ai des journées de plus de 24 heures, moi. Non, tous les soirs, une fois les petits couchés, après 8 heures, je pâtisse ou j'écris des recettes. Ça, c'est pour le soir et le week-end. Mes week-ends sont très chargés entre la pâtisserie, le sport et mes enfants. Voilà, mais le soir, principalement, je me couche tard. Et entre 20h et minuit, ben, c'est pâtisserie.
Et quel est le moment le plus appréciable?
C'est quand on déguste, c'est quand on voit que le dessert est bien réalisé et surtout quand on fait plaisir aux gens. Voilà, moi ce qui me fait plaisir dans la pâtisserie, c'est partager, c'est donner le sourire aux gens.
On s'en mangerait les doigts.
Ah ouais, c'est clair.
Quel effet vous fait devenir meilleur pâtisserie?
Ah ben le fait d'avoir gagné meilleur pâtissier, ça m'a beaucoup touché. Parce que c'est quelque chose d'éprouvant, hein, le concours est difficile et surtout rendre ma famille fière. Et mes enfants, surtout dans les yeux des enfants, de mes enfants, voir qu'ils étaient fiers de leur papa. Et ils m'ont soutenu, donc voilà, c'est vraiment ma victoire est dédiée à ma femme et à mes enfants et à ma famille.
Vous apparaissez dans un livre de record?
Non, pas de livre de record, mais j'appartiens maintenant à la famille du meilleur pâtissier. On est un petit nombre de gagnants, donc voilà, c'est avec fierté.
Des médailles?
Et exactement, ouais, tout à fait. J'en ai eu deux, donc je suis très content.
Je vous crois.
Et quel est votre meilleur souvenir pendant la compétition? L'émission était chargée vers vous, la vie.
Alors, le meilleur souvenir d'un meilleur pâtissier, c'est quand j'ai rencontré M. Conticini, qui est un chef que j'admirais, que j'admire toujours, que j'adore. Et en fait, le fait de quand il m'a noté en finale... C'est grâce aussi un petit peu à lui que j'ai gagné, parce que j'ai eu de très bons compliments. Et ses conseils, c'est quelqu'un de bienveillant, malgré c'est un dieu de la pâtisserie. Et malgré ça, moi, petit amateur, ben, il m'a conseillé beaucoup, beaucoup. Et il a été très bienveillant. Et c'est vraiment quelqu'un que, voilà, c'est une rencontre coup de cœur.
Y a-t-il un pays où vous aimeriez aller pour la pâtisserie?
J'aime bien aller faire un petit tour tout ce qui est japonais, pour voir un petit peu, parce que je sais que les japonais sont très rigoureux, etc. Donc je pense qu'il y a un petit développement dans la pâtisserie à faire là-bas. Voilà, tout ce qui est pays asiatique, je pense qu'on peut se développer.
Merci.
Parmi Caroline, Carl et Anissa, lesquels de ces participants redoutiez-vous le plus?
Alors, incontestablement, c'était Carl. Qui avait un univers qui était proche du mien. Il faisait beaucoup d'entremets également et on s'était tiré la bourre toute l'émission, donc c'était plus Carl que je redoutais. On avait réussi un petit peu à isoler Anissa et Caro pour la finale. On avait pris quelques points d'avance avec Carl et vraiment tout s'est joué à la dernière pâtisserie entre Carl et moi.
Il y a eu des Saint-Honoré qui basculent un peu.
C'est ça. Heureusement, Carl, en finale, avait fait un entremets qui n'était pas glacé. Et le thème, c'était les entremets glacés. Donc, heureusement qu'il a fait ça pour que je prenne des points d'avance.
Si vous deviez faire un gâteau, lesquels seraient-ils et comment gérez-vous le stress?
Alors, si je devais faire un gâteau, alors là, j'en fais beaucoup, beaucoup. En ce moment, là, j'ai fait un fraisier revisité hier en atelier. Donc j'utilise toujours des fruits de saison, d'accord? Ça c'est vraiment mon fer de lance, toute l'année j'utilise que des fruits de saison. Et puis le stress, comment je le gère? Eh bien c'est pas facile à expliquer parce que chacun gère le stress différemment. Moi j'ai la chance de bien supporter la pression. Quand je vois que je commence un petit peu à speeder, à stresser, je pense à ma famille et ça m'apaise et pour l'instant j'y arrive assez bien.
Le sport aussi, peut-être.
Ouais, le sport, le fait que je fasse beaucoup de sport d'endurance, déjà, ça aide beaucoup, être bien dans sa tête, être posé. C'est vrai que les concours comme ça, si on commence à s'énerver à la première remarque, au premier problème qu'on rencontre pendant qu'on pâtisse, on panique vite et on est vite éliminé.
Une question. Si j'avais un dessert à faire à mon amoureux, quel ingrédient me conseillerez-vous ?
Le litchi.
Un gâteau au litchi ?
Ouais, un entremets litchi, rose et framboise.
Merci.
Avec plaisir.
Êtes-vous sollicité par des gens pour faire des gâteaux ?
Oui, alors je suis sollicité beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire des gâteaux. Par contre, comme j'ai pas de boutique, voilà, je peux pas en vendre. Et j'en fais beaucoup pour ma famille, mais j'en vends pas, non.
Merci.
De rien.
L'émission.
L'émission a-t-elle un index ou comment vous avez fait ? Comment avez-vous organisé votre conseil de votre métier pâtisserie à votre famille ?
Alors, comment j'ai concilié mon métier avec la famille, c'est ça ? Eh bien, je concilie ça assez bien. Ma famille me soutient, ils m'aident beaucoup, ils m'accompagnent quand je fais pas mal de démonstrations à l'extérieur. Donc voilà, tant que ma famille me soutient, je continue. Et puis le jour qu'ils seront fatigués à la pâtisserie, je lèverai le pied pour le bien de ma famille. Mais pour l'instant, tout va bien et j'en suis très heureux.
Merci. Maintenant bien aussi, ne pouvez-vous nous lire votre texte au sujet de vos vacances à Lyon ?
Je fais ma part de test de vacances à Grenoble et Lyon. Mes vacances du mois de mars 2018 ont commencé par un week-end à Lyon. J'ai visité Vieux-Lyon en compagnie de ma nièce et de sa mari. Nous avons vu la cathédrale de Saint-Jean où sont déroulés les obsèques du chef lyonnais Paul Bosquet en janvier 2018. Après avoir embellié dans le petit riel, nous avons déjeuné dans un restaurant sur le quai de Sonne. Nous sommes allés faire beau, comme il faisait beau. Nous avons promené, nous sommes passés par la place Bellecour où j'habitais en 70 et 48 ans. Ensuite, nous sommes allés voir les rues Émisola où habitait mon amie Patricia Lavilla, la chanteuse célèbre en 70. Après ce week-end, à Lyon, d'action Grenoble, où j'ai joué au foot en tournoi de Six, j'ai gagné une médaille de foot.
Merci, Houssine. Maintenant, moi, j'ai un texte à vous proposer d'une chanson de Claude Barzotti. C'est « Elle me tue ». Merci. Sa façon de m'interdire de parler, de tout lui dire, ça me tue. Elle me glace d'émotion, pute ou poupée de salon, elle me tue. Sa démarche à reculons, léopard, caméléon, ça me tue. Elle me fait des courants d'air par-dessus le pilover, elle me tue. Elle me tue, elle me tue. Je suis perdant, je suis perdu. Elle me tue, mais je l'aime. Mais je l'aime quand même. Je ne suis qu'un oiseau pour le chat, une proie. Elle me tue, mais je l'aime. Mais je l'aime quand même. Elle peut bien faire n'importe quoi. Elle est tout, tout pour moi. Elle sait se déhancher, c'est pas marcher, c'est danser, elle me tue. Elle ne veut pas dans son sillage, comme un chien, comme un otage, elle me tue. Elle se met sur les paupières, tous les sables du désert, elle me tue. On dirait qu'elle a vaincu l'emprise du temps perdu, elle me tue. Elle me tue, elle me tue. Je suis perdant, je suis perdu. Elle me tue, mais je l'aime. Mais je l'aime quand même. Elle peut bien faire n'importe quoi. Elle est tout, tout pour moi. Elle me tue, mais je l'aime. Mais je l'aime quand même. Elle peut bien faire n'importe quoi. Je suis perdue, elle me tue. Elle me tue. Maintenant, nous allons écouter des textes d'Arca, ainsi qu'une actualité de Antoine.
Aujourd'hui, mes deux textes sont Je te promets, et moi je l'aime. Je te promets, il me faut partir, ici nos vies frêles expirent, sans intérêt abandonné tu n'es. Là-bas, ne t'oublierai, crois-moi, pour toi de l'amour j'ai, ne sois pas inquiet, fâché. Il me faut choisir entre périr ou réagir, nos âmes, nos corps sont si affamés. Il me faut doit trouver de quoi subsister, mon bébé, ne sois pas épouvanté. Pas si loin le soutien sûr est, et rester loin, je n'aurai rien à gagner. En toute sincérité, tu es ma priorité. Revenir tôt, l'avenir beau, je te promets. Moi, je l'aime. À ce joyau-là, n'y touchez pas. Je vous vois jouer avec sa voix. Il vient d'une parcelle de moi, petit mien né dans juste l'inadéquat. Bien des sanglots il me faut sécher avec pureté. Laissez-le en paix. À ce joyau-là, n'y touchez pas. Je vous vois jouer avec sa foi. Même si on se querelle parfois, pour lui je lutte, pour lui rudoie. Bien des repos j'ai à protéger, à sauvegarder. Laissez-le en paix. Moi je l'aime, n'y renoncerai jamais.
Vers une diversification alimentaire. Il y a déjà 3 milliards d'années, l'homme consommait des insectes et des algues. À cause de la consommation humaine actuelle, le risque de disparition des espèces animales est réel. L'homme devient de plus en plus soucieux de son alimentation, de sa santé, de son bien-être des animaux. Donc il envisage de consommer autre chose et différemment en s'inspirant de l'alimentation outre-Occident. Les algues et les insectes sont les deux principaux aliments du futur. Les consommateurs d'insectes s'appellent des entomophages. Il y a plus de 1900 espèces d'insectes comestibles qui sont une source de protéines plus importante que le bœuf et le poisson riche en minéraux et en vitamines. Les plus consommés dans le monde sont les scarabées et les chenilles. Il est consommé par la plupart séché, grillé, frié et assaisonné. De nombreuses espèces d'algues présentent des vertus protectrices, digestives, cardiovasculaires, luttent contre le cholestérol et le diabète. Elles sont une source importante de vitamines, de minéraux, de protéines et sont peu très caloriques.
Alors c'est de l'alimentation, ça, les insectes, enfin si on veut, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors j'ai eu la chance de goûter pas mal d'insectes associés avec du chocolat. Donc, pourquoi pas ?
Pourquoi pas, oui.
Grillé, c'est pas mauvais. J'en raffole pas, mais ça passe. Si dans quelques dizaines d'années, il faut manger ça sera avec plaisir.
C'est peut-être l'avenir. C'est écologique, en tout cas.
Mais c'est ça. J'ai l'impression que dans quelques années, on va manger de plus en plus à l'apéritif avec une boisson sans alcool, bien évidemment. Et ben, ça passera bien. Hein.
Pourquoi pas ? Et vous, Sylviane ?
Philippe était à l'hôpital au café Rencontre pour interviewer deux musiciens qui jouaient de la musique du 6e siècle.
Je suis avec le duo Bissignon, Jean Goujon et Bernard Millon, qui vont nous parler de leur travail qu'on a écouté. Alors, depuis combien de temps vous travaillez ensemble ?
Pour ce duo, oui, ça fait un an qu'on travaille pour ce duo. Mais avant, on a fait beaucoup de choses de musique ensemble déjà depuis longtemps.
Vous jouez depuis longtemps ?
Ensemble.
Seul déjà ?
Tout seul, oui, depuis tout petit.
Et alors décrivez-nous vos instruments et leurs différences.
Alors il y a des flûtes à bec, assez connues puisque la flûte à bec c'est le même instrument qu'à une époque il était de mode d'en faire au collège. Donc la flûte soprano, la flûte alto, alto en sol. Et voilà, c'est les deux flûtes que j'utilise. Donc les flûtes à bec et le cornet à bouquin qui est un cuivre donc, du 16e siècle. Et là j'utilise des cornets droits. Alors parfois ils sont courbes, mais là c'est des droits, c'est plus pratique à transporter.
Et vous alors, c'est du violon baroque?
Oui, je joue un violon baroque qui est un violon authentique qui date de 1748, de facture lorraine, de Nicolas Desrousseaux. Bon, j'ai eu la chance de tomber sur cet instrument et je l'ai adopté depuis. Je pratiquais auparavant sur une copie d'instrument ancien qui avait été faite par David Rubio, bon, qui était un luthier anglais mais qui est décédé en l'an 2000. Et bon, là, c'est un instrument d'époque, bon, qui est hélas déjà anachronique par rapport aux musiques qu'on joue, puisque nous, on a joué la musique de 16e et 17e siècle, mais c'était quand même mieux d'avoir un violon baroque, donc monté avec des cordes en boyau et avec un archet baroque pour jouer ces musiques, que de prendre un violon moderne, oui, bien sûr.
Alors, comment avez-vous appris, vous ?
Alors, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à faire du piano et apprendre à lire la musique. Hein. Et après, j'ai fait la direction chorale, et puis j'ai fait la flûte à bec aussi un peu plus tard, et je me suis mis aux instruments anciens, comme le cornet aussi, vers l'âge de 20 ans à peu près.
Merci, vous.
Moi, j'ai commencé le violon à l'âge de 8 ans aussi. J'ai eu un premier professeur à Pau, qui était timbalier, lui, dans l'orchestre symphonique de Pau. Et puis, j'ai recommencé tout sur un... Moi, j'ai commencé sur un violon entier, alors que j'étais trop petit pour le faire. Et j'ai ensuite appris à l'école de musique d'Agen. J'ai appris beaucoup plus la musique, en fait, Oui, c'est ça. En orchestre, j'ai fait partie du Collégium Musicum d'Aquitaine, puis de l'ensemble Scherzando. Et puis ensuite, j'ai créé différents orchestres, notamment... j'ai participé à la fondation du JOSEM. J'ai fait partie d'un groupe, de différents groupes de musique ancienne. J'ai été invité dans l'ensemble de musique baroque de Toulouse. J'ai fait partie longtemps de Sagittarius. Je dirige surtout l'ensemble Villa Bohème, qui a été fondé à l'époque où je travaillais au Centre Rural d'Animation Culturelle.
Alors, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme musique ici à Parchap ?
Alors, en fait, c'est le fait que la musique est intemporelle. Nous, on fait de la musique ancienne, mais la musique, c'est un art qui a cette caractéristique de disparaître dès qu'on arrête de jouer, quoi. Et la musique, elle est contemporaine au moment où on la joue, même si c'est de la musique très ancienne.
Expliquez-nous ce qu'est la plasticité sonore.
Moduler le son, faire des nuances, jouer sur les articulations, coller au texte quand il y a du texte. Hein, ça peut être un peu... Ça, là, il faut être plastique. Plastique, c'est quelque chose qui se moule.
Voilà,
qui se module. Donc,
merci. C'est...
Toujours en dialogue les deux instruments.
Il y a aussi le fait que dans la musique ancienne, en fait, les instruments ne sont pas nécessairement... identifiés, où les compositeurs écrivent de la musique, n'écrivent pas nécessairement pour un instrument comme de nos jours dans une partition d'orchestre, il y a la ligne des violons, la ligne des flûtes, etc. Donc il y a une forme de plasticité dès qu'on fait de la musique ancienne, parce qu'on peut l'interpréter de plein de manières différentes.
On joue plutôt sur la hauteur des notes, hein. Un instrument aigu, un instrument plus grave, une voix, hein. En fonction de la clé qui va dire ça sera aigu ou grave, on dit donc ça on donne à un chanteur qui chante aigu ou à un instrument qui va jouer une partie basse.
Alors, votre programme a trois mouvements qui fait honneur à plusieurs nations européennes. Le chant, la chapelle et au chez. Vous pouvez nous en parler ?
Alors c'était pour un peu donner des pistes d'écoute, hein, et puis un peu nous classer les musiques. Parce qu'on a un grand choix de musique. Alors après, on affine un peu le choix et on a dit, allez, tout ce qui est un peu champêtre, on va le mettre au chant, donc musique de plein air avec les oiseaux. Après, tout ce qui est religieux, on va le dire, ça sonne comme dans une chapelle. Et puis après, on a classé tout ce qui était chanson à boire, un peu plus musique de danse, on l'a mis là dans le salon ou bien dans... ou à la chambre.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai vu deux troubadours, qu'est-ce que vous en pensez ?
Des troubadours, oui. Troubadours dans le sens qui... Oui, troubadours c'est encore bien plus ancien. Oui, c'est ça, c'est moyen. Donc deux musiciens qui dialoguent.
Ils s'entendent bien.
Oui, ça va très bien, oui.
Merci messieurs.
Et maintenant, j'ouvre la page sport avec... Les 24 heures du Mans Moto. Les 24 heures du Mans Moto, j'y suis allé 10 fois. Il y a beaucoup de monde. J'ai pu voir le jeudi, le vendredi et samedi matin les courses annexes, autres cylindrées et catégories, ainsi que les essais des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans se font sur le circuit Bugatti et les épreuves comptent pour le championnat du monde d'endurance. Il y a des cascadeurs le samedi après-midi avant la course. Le coup d'envoi des 24 heures a lieu à 3 heures de l'après-midi jusqu'au lendemain 15 heures. Quand le départ est donné, ça carbure. Tout autour, les motards font la fête. Il y a un concert de rock'n'roll le soir et on peut même trouver une fête foraine. Il y a des motards qui trafiquent le pot pour faire plus de bruit. Certains font même des flammes. On peut trouver plein de stands où on peut acheter des casques, des blousons, de tout pour la moto. Pour la sécurité de tous, il y a une piste pour faire des roues arrière, des départs de vitesse, ce qui a diminué le nombre de morts. La nuit, la course des 24 heures devient plus compliquée. Il y a de l'humidité, de la fatigue malgré les relais. Le nombre d'abandons augmente. Le matin de la course continue et à 15 heures, c'est l'arrivée. Il y a beaucoup de spectateurs, la piste est envahie par les motards. Ça se finit par la remise des prix et tous les motards rentrent chez eux. J'ai pu récupérer la moitié de la couronne de fleurs jetée au public par le vainqueur. Je l'ai donnée au bar où on allait le Saint-Julien à Toulaine.
Page actualité culturelle avec Corinne.
Et maintenant les infos et la page culturelle. À Riens. Du 6 au 8 juillet, Festival Rue et Vous. À Barsac, Poudinsac et Portès, du 17 au 27 juillet, Rencontre musicale internationale des Graves. À La Réole, du 20 au 21 juillet, Vivacité. À Sauveterre de Guyenne, du 27 juillet au 5 août, Festival de Ginsac. À Le Tourne, du 28 au 29 juillet, au chantier de Tramassé, Rencontre des bateaux de bois. Juillet à Cadillac, du 1er au 25, nuits atypiques. À partir du 2, à la mairie, exposition de décors de ronde de nuit, le thème Toulouse-Lautrec. Jusqu'au 9, feste baroque, festival de musique ancienne. Le 13, dès 19h, au jardin public, bal des pompiers, suivi d'un feu d'artifice. Le 15 à 17h30, à l'église, festival Entre deux airs, concert d'ouverture. À 19h, au Cinélux, projection du documentaire Josème. Et à 21h, au jardin du château, concert de l'ensemble symphonique de Montréal. Toujours à Cadillac, mais en août. Le 24, dès 19h30, au pied des remparts, marché des producteurs. Restauration et animation musicale. Le 25, de 16h à minuit, en Bastide, spectacle et animation, et en bord de Garonne, feu d'artifice. En septembre, le 22, à 21h, en Bastide, ronde de nuit, spectacle itinérant. Le 28 à 18h30, au jardin public, concours fleuri et remise de prix. Et le 29, en soirée, aux allées, inauguration, animation et buffet. La programmation du Cinélux. Du 28 juin au 10 juillet, les films à l'affiche sont Ocean's 8, Una Question Privata, Deadpool 2, Le Voyage du Lila, Champion, Les Indestructibles 2, Trois jours à Quiberon et Ni juge ni soumise. Les séances spéciales dans le cadre des nuits atypiques, le 1er juillet à 11h, Yannick Jolin. Avant-première, le 2 juillet à 20h30, Woman at War. Et dans le cadre des nuits du cinéma, le 6 juillet à 20h30, Moutafoukaz et à 22h15, Sans un bruit.
Alors nous revenons dans nos studios avec Cyril Carini. Alors Cyril, moi il y a une question qu'on n'a pas posée. Vous avez gagné en 2015, mais il me semble que vous avez gagné encore faire mieux en 2017.
J'ai participé, ouais, en 2017. J'ai reparticipé donc à une émission spéciale Noël. où on s'est bien débrouillé. C'était par équipe avec Caroline et Gérard de ma saison. Et on a perdu en finale, mais on s'est très très bien débrouillé. Surtout, ça fait plaisir de revoir les copains.
Oui, alors, pour conclure, on parlait un peu. C'est Sylviane qui va nous poser une question.
Comment faites-vous pour partager vos deux métiers ?
Alors, comment je fais pour partager mes deux métiers ? Alors, j'ai la chance d'avoir un cerveau que je dépose quand je fais que la pâtisserie et l'autre quand je fais que la police. J'ai la chance, comme je suis un petit peu actif, de bien dissocier les deux. C'est vrai que quand je pâtisse, c'est bien parce que ça me fait un petit peu oublier les tracas de la police. C'est vrai que maintenant, c'est compliqué d'être policier. Donc, le métier de pâtissier à côté me fait beaucoup de bien. Ça équilibre mon quotidien, mais ça se passe très bien. Mes collègues sont bien contents de goûter de bons gâteaux, donc pour l'instant, tout se passe très bien.
Merci.
De rien.
Alors, oui, Jean-Louis.
Est-ce que les gens vous reconnaissent quand vous êtes un policier ?
Ah oui, encore plus en policier qu'en civil. Ils cherchent vraiment le policier pâtissier, c'est pas commun. Hein. Quelqu'un qui distribue des tartes aux amandes toute la journée, c'est pas facile. Hein. Plus sérieusement, ils me reconnaissent beaucoup, ils sont très gentils. Donc ça redonne un petit peu de couleur, de baume au cœur avec ce métier. Et ils n'hésitent pas à venir me voir, me saluer, me féliciter pour le travail accompli au meilleur pâtissier. Et puis voilà, donc c'est un bon moment d'échange aussi, même en tenue.
Alors nous allons conclure, mais qu'est-ce que vous pensez de nous, notre émission ? Qu'est-ce que vous avez votre avis sur notre, entre guillemets, performance ?
Ah bah écoutez, moi je vous félicite parce que, mine de rien, pour préparer une émission radio comme ça, j'ai vu passer tout un tas de feuilles. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et vous faites ça avec passion et entre passionnés, on se comprend. Donc je vous félicite vraiment et longue vie à votre émission parce que c'est super sympa, vous êtes tous adorables et je reviendrai avec plaisir.
Merci de votre empathie. Et puis à l'année prochaine, allez en vacances, bronzez bien, nagez bien, revenez en pleine forme pour septembre. Nous, on va se reposer un peu en juillet, août. Bye bye.
Bonnes vacances à tous.
Merci.
Pas d'affolement.
Pas d'affolement.